Chapitre 7e. La grange aux pendus. De tous ces événements, on ne connut que la tentative de suicide de Marianne Fauville, la capture et l'évasion de Gaston Sauvran, le meurtre de l'inspecteur principal Anceny, et la découverte d'une lettre écrite par Hippolyte Fauville. Ils suffirent d'ailleurs à raviver la curiosité d'un public que l'affaire Mornington intriguait déjà vivement et qui se passionnait au moindre geste de ce mystérieux Don Luis Perena que l'on s'obstinait à confondre avec Arsène Lupin. Bien entendu, on lui attribua la capture momentanée de l'homme à la canne d'ébène. On sut en outre qu'il avait sauvé la vie du préfet de police et que finalement, ayant sur sa demande passé la nuit dans l'hôtel du boulevard Suchet, il avait reçu de la façon la plus incompréhensible la fameuse lettre de l'ingénieur Fauville, et tout cela surexcitait l'opinion au plus haut point. Mais combien les problèmes posés à Don Luis Perena étaient plus complexes et plus troublants. 4 fois en l'espace de 48 heures, et sans parler de l'article anonyme où on le dénonçait, 4 fois, par l'écroulement du rideau de fer, par le poison, par le coup de feu du boulevard Suchet, et par le trucage de son automobile, on avait essayé de le tuer. La participation de Florence à ces attentats consécutifs était indéniable. Et voilà que les relations de la jeune fille avec les assassins d'Hippolyte Fauville se trouvaient établies grâce à la petite note recueillie dans le volume 8 de Shakespeare. Et voilà que 2 morts nouvelles s'ajoutaient à la liste funèbre. La mort de l'inspecteur principal Anceny, la mort du chauffeur d'automobile. Comment définir et comment expliquer le rôle que jouait au milieu de toutes ces catastrophes l'énigmatique créature? Chose étrange, la vie reprit à l'hôtel de la place du Palais Bourbon comme si rien d'anormal ne s'y fût passé. Chaque matin, Florence Levasseur dépouillait le courrier en présence de Don Luis et lisait à haute voix les articles de journaux qui le concernaient ou se rapportaient à l'affaire Mornington. Pas une fois, il ne fit allusion à la lutte sauvage qu'on avait poursuivie contre lui pendant 2 jours. Il semblait qu'une trêve fût conclue entre eux et que pour l'instant, l'ennemi eût renoncé à ses attaques. Et Don Luis se sentait tranquille, à l'abri du danger. Et il parlait à la jeune fille d'un air indifférent, ainsi qu'il lui parlait à la première venue. Mais avec quel intérêt fiévreux il épiait la dérobée. Comme il observait l'expression à la fois si ardente et si calme de ce visage, où frémissait, sous le masque paisible, une sensibilité douloureuse, excessive, difficilement contenue, et que l'on devinait à certains frissons des lèvres, à certains battements des narines. « Qu'es-tu? Qu'es-tu ? » avait-il envie de crier. « Est-ce donc ta volonté de semer les cadavres sur la route ? Et te faut-il encore un mort pour atteindre ton but ? Où vas-tu et d'où viens-tu ? » À la réflexion, une certitude l'avait envahi, qui résolvait un problème dont il s'était souvent préoccupé, à savoir le rapport mystérieux existant entre sa présence à lui, dans l'hôtel de la place du Palais Bourbon, et la présence d'une femme qui manifestement le poursuivait de sa haine. Aujourd'hui, il comprenait que ce n'était point par hasard qu'il avait acheté cet hôtel. En agissant ainsi, il avait cédé à une offre anonyme qu'on lui avait faite au moyen d'un prospectus dactylographié. D'où venait cette offre, sinon de Florence? De Florence qui voulait l'attirer auprès d'elle pour le surveiller et pour le combattre? Eh oui, pensa-t-il, la vérité est là. Héritier possible de Cosmo Mornington, mêlé directement à cette affaire, je suis l'ennemi. Et l'on cherche à me supprimer comme les autres. Et c'est Florence qui agit contre moi. Et c'est elle qui a tué. Tout l'accuse, rien ne la défend. Ses yeux purs, sa voix sincère, la gravité et la noblesse de sa personne. Et après, oui, après. N'en ai-je pas vu de ces femmes au regard candide et qui tuaient sans raison, par volupté presque? Il tressaillait d'épouvante au souvenir de Dolores Kesselbach. Quel lien obscur unissait à chaque instant dans son esprit l'image de ces 2 femmes? Il avait aimé l'une, la monstrueuse Dolores, et de ses propres mains l'avait étranglée. La destinée le conduisait-elle aujourd'hui vers un même amour et vers un meurtre semblable? Quand Florence s'en allait, il éprouvait une satisfaction et respirait plus à l'aise, comme délivré d'un poids qui l'eût oppressé. Mais il courait à la fenêtre, et il la regardait traverser la cour, et il attendait encore que passa et repassa la jeune fille, dont il avait senti sur son visage l'haleine parfumée. Un matin, elle lui dit « Les journaux annoncent que c'est pour ce soir. »«
Pour ce soir. »«
Oui, » fit-elle en montrant un article. « Nous sommes le 25 avril et les renseignements de la police, fournis par vous, dit-on, prétendent que tous les 10 jours, il y aura une lettre dans l'hôtel du boulevard Suchet et que l'hôtel sera détruit par une explosion la nuit même où apparaîtra la 5e et dernière lettre. » Était-ce un défi? Voulait-elle lui faire entendre, quoi qu'il arrivât, et quels que fussent les obstacles, les lettres apparaîtraient, ces lettres mystérieuses annoncées sur la liste qu'il avait trouvée dans le tome 8 de Shakespeare? Il la regarda fixement, elle ne broncha pas. Il répondit « En effet, c'est pour cette nuit, et j'y serai. Rien au monde ne peut m'empêcher d'y être. » Elle fut encore sur le point de répliquer, mais une fois de plus, elle imposa silence aux sentiments qui la bouleversaient. Ce jour-là, Don Luis se tint sur ses gardes. Il déjeuna et dîna au restaurant et s'entendit avec Mazeroux pour qu'on surveillât la place du Palais Bourbon. L'après-midi, Mademoiselle Levasseur ne quitta pas l'hôtel. Le soir, Don Luis donna l'ordre aux hommes de Mazeroux que l'on suivît toute personne qui sortirait. À 10 heures, le brigadier rejoignait Don Luis dans le cabinet de travail de l'ingénieur Fauville. Le sous-chef Weber et 2 agents l'accompagnaient. Don Luis prit Mazeroux à part. « On se méfie de moi, avoue-le. »«
Non, tant que M. Desmalions sera là, on ne peut rien contre vous. Seulement Weber prétend, il n'est pas le seul, que c'est vous qui manigancez toutes ces histoires-là. »«
Dans quel but ?»«
Dans le but de fournir des preuves contre Marianne Fauville et de la faire condamner. »«
Alors c'est moi qui ai demandé la présence du sous-chef et de 2 hommes. » Nous serons 4 pour témoigner de votre bonne foi. » Chacun prit son poste. Tour à tour, 2 policiers devaient veiller. Cette fois, après avoir fouillé minutieusement la petite chambre où couchait jadis le fils d'Hippolyte Fauville, on ferma et on verrouilla les portes et les volets. À 11 heures, on éteignit le plafonnier électrique. Don Luis et Weber dormirent à peine. La nuit s'écoula sans le moindre incident. Mais à 7 heures, quand les volets furent poussés, on s'aperçut qu'il y avait une lettre sur la table. De même que l'autre fois, il y avait une lettre sur la table. Cette lettre, le premier moment de stupeur passé, le sous-chef la prit. Il avait ordre de ne pas la lire et de ne la laisser lire à personne. La voici, telle que les journaux la publièrent en même temps qu'ils publiaient les déclarations des experts, attestant que l'écriture était bien celle d'Hippolyte Fauville.
« Je l'ai vue. « Tu comprends, n'est-ce pas, mon bon ami? Je l'ai vu. Il se promenait dans une allée du bois, le col relevé, le chapeau enfoncé jusqu'aux oreilles. M'a-t-il vu, lui? Je ne crois pas. Il faisait presque nuit, mais moi je l'ai bien reconnu. J'ai reconnu la poignée d'argent de sa canne d'ébène. C'était bien lui, le misérable. Le voilà donc à Paris malgré sa promesse?
Gaston Sauvran est à Paris.
Comprends-tu ce qu'il y a de terrible dans ce fait? S'il est à Paris, c'est qu'il veut agir. S'il est à Paris, c'est que ma mort est décidée. Ah, c'est mon homme. Quel mal il m'aura fait. Il m'a déjà volé mon bonheur. Et maintenant c'est ma vie qu'il lui faut. J'ai peur. »
Ainsi, l'ingénieur Fauville savait que l'homme à la canne d'ébène, que Gaston Sauvran préméditait de le tuer. Cela, Hippolyte Fauville, par un témoignage écrit de sa propre main, le déclarait de la façon la plus formelle. Et la lettre, en outre, corroborant les paroles échappées à Gaston Sauvran lors de son arrestation, laissait entendre que les 2 hommes avaient été jadis en relation, qu'il y avait eu entre eux rupture d'amitié et que Gaston Sauvran avait promis de ne jamais venir à Paris. Un peu de clarté pénétrait donc en la ténébreuse aventure de l'héritage Mornington. Mais d'autre part, quel mystère inconcevable que la présence de cette lettre sur la table du cabinet de travail. 5 hommes avaient veillé, 5 hommes qui comptaient parmi les plus habiles, et pourtant, cette nuit-là, comme la nuit du 15 avril, une main inconnue avait déposé la lettre dans une pièce aux fenêtres et aux portes barricadées, sans que le moindre bruit fût perçu, sans qu'une trace d'effraction pût être relevée aux fermetures des portes et des fenêtres. Tout de suite, on souleva l'hypothèse d'une issue secrète. Hypothèse qu'on dut abandonner après un examen attentif des murs, et après convocation de l'entrepreneur qui avait construit la maison quelques années auparavant sur le plan de l'ingénieur Fauville. Il est inutile de rappeler encore à ce propos ce qu'on pourrait appeler l'ahurissement du public.
Dans les conditions où il se produisait, le fait prenait l'apparence d'un tour de passe-passe. Plutôt que l'intervention d'un personnage disposant de moyens ignorés, on était tenté de voir là le divertissement d'un prestidigitateur doué d'une adresse prodigieuse. Il n'en restait pas moins établi que les indications de Don Luis Perena se trouvaient justifiées et que la date du 25, comme celle du 15 avril, avait suscité l'incident prévu. La date du 5 mai continuerait-elle la série? Nul n'en douta puisque Don Luis l'avait prédit et qu'il semblait à tous que Don Luis ne put pas se tromper. Et toute la nuit du 5 au 6 mai, il y eut foule sur le boulevard Suchet. Des curieux, des noctambules, venaient en bande chercher les dernières nouvelles. Le préfet de police lui-même, vivement impressionné par le double miracle, voulut se rendre compte et assister en personne aux opérations de la troisième nuit. Il se fit accompagner de plusieurs inspecteurs qu'il laissa dans le jardin, dans le couloir et dans la mansarde de l'étage supérieur. Lui-même s'établit au rez-de-chaussée avec le sous-chef Weber, avec Mazrou et avec Don Luis Perena. L'attente fut déçue, et cela par la faute de M. Desmalions. Malgré l'avis formel de Don Luis, qui jugeait l'expérience inutile, il avait décidé, afin de savoir si la lumière empêcherait le miracle de se produire, de ne pas éteindre l'électricité. Dans de telles conditions, aucune lettre ne pouvait surgir et aucune lettre ne surgit. Truc de magicien ou stratagème de malfaiteur, il fallait le secours de l'ombre propice. C'était donc 10 jours perdus, si tant est que le correspondant diabolique osa renouveler sa tentative et produire la troisième lettre mystérieuse. Le 15 mai, la faction recommença. Tandis qu'une même foule s'accumulait dehors, une foule anxieuse, haletante, remuée par les moindres bruits et qui, les yeux fixés sur l'hôtel Fauville, gardait un silence impressionnant. Cette fois, on éteignit. Mais le préfet de police tenait la main sur l'interrupteur électrique. 10 fois, 20 fois, il alluma inopinément sur la table. Rien. C'était le craquement d'un meuble qui avait éveillé son attention ou le geste d'un des assistants. Soudain, tous, ils eurent une exclamation, quelque chose d'insolite, un froissement de feuilles venait d'interrompre le silence. Déjà, M. Desmalions avait tourné l'interrupteur. Il poussa un cri. La lettre était là, non plus sur la table, mais à côté, par terre, sur le tapis. Mazrou fit le signe de la croix. Les inspecteurs étaient livides. M. Desmalions regarda Don Luis, qui hocha la tête sans rien dire. On vérifia l'état des serrures et des verrous. Rien n'avait bougé. Ce jour-là encore, le contenu de la lettre compensa, en quelque manière, la façon vraiment inouïe dont elle émergeait des ténèbres. Elle achevait de dissiper tous les nuages qui enveloppaient le double assassinat du boulevard Suchet. Toujours signée par l'ingénieur, écrite par lui à la date du 8 février précédent, sans adresse visible, elle disait « Mon cher ami, eh bien non, je ne me laisserai pas égorger comme un mouton qu'on mène à l'abattoir. Je me défendrai. Je lutterai jusqu'à la dernière minute. Ah, c'est que maintenant les choses ont changé de face. J'ai des preuves maintenant, des preuves irrécusables. Je possède des lettres qu'ils ont échangées. Et je sais qu'ils s'aiment toujours, comme au début, et qu'ils veulent s'épouser, et que rien ne les arrêtera. C'est écrit, tu entends, c'est écrit de la main même de Marianne. Patiente, mon Gaston bien-aimé, le courage grandit en moi. Tant pis pour celui qui nous sépare, il disparaîtra. Mon bon ami, si je succombe dans la lutte, tu trouveras ces lettres-là. Et tout le dossier que je réunis contre la misérable créature, dans le coffre-fort, qui est caché derrière la petite vitrine. Alors venge-moi. Au revoir. Adieu, peut-être. Telle fut la troisième missive. Du fond de sa tombe, Hippolyte Fauville nommait et accusait l'épouse coupable. Du fond de sa tombe, il donnait le mot de l'énigme en expliquant les raisons pour lesquelles le crime avait été commis. Marianne et Gaston Sauvran s'aimaient. Certes, ils connaissaient l'existence du testament de Cosmo Mornington, puisqu'ils avaient commencé par supprimer Cosmo Mornington, et la hâte de conquérir l'énorme fortune avait précipité le dénouement. Mais l'idée première du crime prenait racine dans un sentiment ancien. Marianne et Gaston Sauvran s'aimaient. restait à résoudre un problème. Qu'était-ce donc que ce correspondant inconnu auquel Hippolyte Fauville avait confié le soin de sa vengeance et qui, au lieu de remettre purement et simplement les lettres à la justice, s'ingéniait à les lui faire parvenir au moyen de combinaisons des plus machiavéliques? Avait-il intérêt lui-même à rester dans l'ombre? À toutes ces questions, Marianne riposta de la façon la plus inattendue et qui cependant était bien conforme à ses menaces. 8 jours après, à la suite d'un long interrogatoire, où on la pressa de dire qui pouvait être cet ancien ami de son mari, et où l'on se heurta au mutisme le plus opiniâtre et à une sorte de torpeur hébétée, le soir, rentrée dans sa cellule, elle s'ouvrit les veines du poignet avec un morceau de verre qu'elle avait réussi à dissimuler. Dès le lendemain matin, avant 8 heures, Don Loïs s'en fut averti par Mazerou, qui vint le surprendre au saut du lit. Le brigadier tenait en main un sac de voyage. La nouvelle qu'il apportait bouleversa Don Loïs. « Elle est morte ? » s'écria-t-il. « Non, il paraît qu'elle en réchappera encore. Mais à quoi bon ? Comment ? À quoi bon ? Parbleu, elle recommencera. Elle a ça dans la tête, et un jour ou l'autre. » Il n'a pas fait d'aveu cette fois non plus avant sa tentative. « Non. » Elle a écrit quelques mots sur un bout de papier, disant que, à bien réfléchir, il fallait chercher l'origine des lettres mystérieuses du côté d'un sieur Langernault. C'est le seul ami qu'elle eût connu autrefois, son mari, le seul en tout cas qui l'appela « mon bon ami ». Ce monsieur Langernault ne pourrait que la disculper et montrer l'effroyable malentendu dont elle était la victime. Alors, fit Don Loïs, si quelqu'un peut la disculper, pourquoi commence-t-elle par s'ouvrir les veines ? Tout lui est égal. D'après ce qu'elle dit, sa vie est perdue. Ce qu'elle veut, c'est le repos, la mort. Le repos, le repos. Il n'y a pas que dans la mort qu'elle pourrait le trouver. Si la découverte de la vérité doit être le salut pour elle, la vérité n'est peut-être pas impossible à découvrir. Qu'est-ce que vous dites, patron ? Vous avez deviné quelque chose ? Vous commencez à comprendre ? Oh, très vaguement, mais tout de même. L'exactitude vraiment anormale de ces lettres me semble justement une indication. Il réfléchit et continua. On a examiné de nouveau l'adresse effacée des 3 lettres. Oui, et l'on a réussi en effet à reconstruire le nom de Langernault. Et ce Langernault habite, selon Madame Fauville, au village de Formigny, dans l'Orne. On a déchiffré ce nom de Formigny sur une des missives. Non, mais celui de la ville auprès de laquelle il est situé. Cette ville, Alençon.
Et c'est là que tu vas? Oui, le préfet de police m'y expédie en toute hâte. Je prends le train aux Invalides. Tu veux dire que tu montes avec moi dans mon auto?
Hein?
Nous partons tous deux, mon petit. J'ai besoin d'agir. L'air de cette maison est mortel pour moi.
Mortel? Que chantez-vous, patron?
Rien, je me comprends.
Une demi-heure plus tard, il filait sur la route de Versailles. Perrina conduisait lui-même son auto-découverte, et il la conduisait d'une telle façon que Mazerou, un peu suffoqué, articulait de temps en temps
« Bigre, nous marchons. Crée tonnerre. Ce que vous en mettez, patron, vous ne craignez pas la culbute. Rappelez-vous, l'autre jour. »
Ils arrivèrent à Alençon pour déjeuner. Le repas fini, ils se rendirent au bureau de poste principal. On n'y connaissait pas le sieur Langernault, et en outre, la commune de Formigny avait son bureau particulier. Il fallait donc supposer, puisque les lettres portaient le cachet d'Alençon, que M. Langernault se faisait adresser sa correspondance dans cette ville, mais sous le couvert de la poste restante. Don Loïs et Mazerou se rendirent au village de Formigny. Là, non plus le receveur ne connaissait personne qui portât le nom de Langernault, quoiqu'il n'y eût à Formigny qu'un 1000 d'habitants. « Allons voir le maire, » dit Perrena. À la mairie, Mazerou exposa ses qualités et l'objet de sa visite. Le maire hocha la tête.
« Le bonhomme Langernault, je crois bien, un brave type, un ancien commerçant de la capitale. »
Ayant l'habitude, n'est-ce pas, de prendre sa correspondance à la poste d'Alençon.
C'est ça même, histoire de faire une promenade quotidienne.
Et sa maison?
Au bout du village, vous avez passé devant.
On peut la voir?
Ma foi, oui, seulement,
il n'est peut-être pas chez lui?
Pour sûr qu'il n'y est pas. Il n'est même plus rentré depuis 4 ans qu'il est sorti, ce pauvre Jérôme.
Comment ça?
Dame, voilà 4 ans qu'il est mort.
Don Loïs et Mazerou se regardèrent avec stupéfaction.
Ah, il est mort, reprit Don Loïs.
Oui, un coup de fusil.
Qu'est-ce que vous dites?
S'écria Perrena. Il a été tué?
Non, non,
On l'a cru d'abord quand on l'a ramassé sur le parquet de sa chambre, mais l'enquête a prouvé qu'il y avait accident. En nettoyant son fusil de chasse, il s'était envoyé une décharge dans le ventre. Seulement, tout de même, au village, ça nous a semblé louche. Le père Langernaud, vieux chasseur devant l'Éternel, n'était pas homme à commettre une imprudence. Il avait de l'argent?
Oui, et c'est là justement ce qui corsait l'affaire. On n'a pas pu dénicher un sou de sa fortune.
Don Luis resta pensif un long moment, puis il reprit. Il l'a laissé des enfants, des parents qui ont le même nom?
Personne, pas un cousin.
À preuve que sa propriété, le vieux château qu'on l'appelle à cause des ruines qui s'y trouvent, est demeuré dans l'état. L'administration du domaine public a fait mettre les scellés sur les portes de la maison et barricader celles du parc. On attend les délais pour prendre possession.
Et les curieux ne vont pas se promener dans le parc malgré les murs?
Ma foi non. D'abord les murs sont hauts et puis... Et puis le vieux château a toujours eu mauvaise réputation dans le pays. On a toujours parlé de revenants, des tas d'histoires à dormir debout, mais tout de même...
Elle est raide celle-là, s'écria Don Luis, lorsqu'ils eurent quitté la mairie. Voilà que l'ingénieur Fauville écrivait ses lettres à un mort.
Et un mort, entre parenthèses, qui m'a tout l'air d'avoir été assassiné.
Quelqu'un les aura interceptées, ces lettres. Évidemment. N'empêche qu'il les écrivait à un mort auquel il faisait ses confidences et racontait les projets criminels de sa femme.
Mazrou se tut. Lui aussi, il semblait extrêmement troublé.
Une partie de l'après-midi, ils se renseignèrent sur les habitudes du bonhomme Langernaud, espérant découvrir quelque indication utile auprès de ceux qu'il avait connus, mais leurs efforts n'aboutirent à aucun résultat. Vers 6 heures, au moment de partir, Don Luis, constatant que l'auto manquait d'essence, dut envoyer Mazrou en carriole jusqu'au faubourg d'Alençon. Il profita de ce répit pour aller voir le vieux château à l'extrémité du village. Il fallait suivre entre deux haies un chemin qui conduisait à un rond-point planté de tilleuls et où se dressait au milieu d'un mur une porte en bois massif. La porte étant fermée, Don Luis longea le mur qui était en effet très élevé et n'offrait aucune brèche, mais pourtant qu'il réussit à franchir en s'aidant des branches d'un arbre voisin. Dans le parc, c'étaient des pelouses incultes, encombrées de grandes fleurs sauvages et des avenues couvertes d'herbes qui s'en allaient à droite vers un monticule lointain où se pressaient des constructions en ruine, et à gauche vers une petite maison délabrée aux volets mal joints. Il se dirigeait de ce côté lorsqu'il fut très étonné d'apercevoir sur la terre d'une plate-bande que les plus récentes avaient détrempée des traces de pas toutes fraîches, et ces traces, il put s'en rendre compte, avaient été laissées par des bottines de femme, des bottines élégantes et fines. « Qui diable vient se promener là ? » pensa-t-il. Il retrouva les traces un peu plus loin, sur une autre plate-bande que la promeneuse avait traversée, et elles le conduisirent à l'opposé de la maison vers une suite de bosquets où il les revit 2 fois encore. Puis il les perdit définitivement. Il était alors auprès d'une vaste grange adossée à un talus très haut, à moitié ruiné, et dont les portes vermoulues ne semblaient tenir que par un hasard d'équilibre. Il s'en approcha et appliqua son œil contre une fente du bois. À l'intérieur, dans les demi-ténèbres de cette grange sans fenêtre, et que les ouvertures bouchées avec de la paille éclairaient d'autant moins que le jour commençait à baisser, on distinguait un amoncellement de barriques, de pressoirs démolis, de vieilles charrues et de ferrailles de toutes sortes. « Ce n'est certes pas là que ma promeneuse a dirigé ses pas, » pensa Don Luis. « Cherchons ailleurs. » Il ne bougea pourtant point. Il avait entendu du bruit dans la grange. Il écouta et ne perçut rien. Mais comme il voulait en avoir le cœur net, d'un choc de l'épaule, il renversa une planche et il entra. La brèche qu'il avait ainsi pratiquée donnant un peu de lumière, il put se glisser entre 2 futailles par-dessus des débris de châssis dont il cassa les verres jusqu'à un espace vide situé de l'autre côté. Il marcha. Ses yeux s'habituaient à l'ombre. Néanmoins, il heurta du front, sans l'avoir vu, quelque chose d'assez dur et qui, mis en mouvement, se balança avec un bruit étrange et sec. Décidément, l'obscurité était trop épaisse. Don Luis tira de sa poche une lanterne électrique dont il fit jouer leur sort. « Crebleu de crebleu !» jura-t-il en reculant effaré. Au-dessus de lui, il y avait un squelette pendu. Et tout de suite, Perrina poussa encore un juron. À côté du premier, il y avait un deuxième squelette, pendu également.
De grosses cordes les accrochaient tous deux à des pitons fixés aux solives de la grange. La tête s'inclinait hors du nœud coulant. Celui que Perrine avait heurté bougeait encore un peu et les os, en s'entrechoquant, faisaient un cliquetis sinistre. Il avança une table boiteuse qu'il cala tant bien que mal et sur laquelle il monta afin d'examiner de près les deux squelettes. Des lambeaux de vêtements et des lambeaux de chair durcie et racornie reliaient et retenaient les os. Cependant, l'un des deux n'avait plus qu'un bras et l'autre plus qu'un bras et une jambe. Alors même qu'aucun choc ne les agitait, le vent qui soufflait par les ouvertures de la grange les balançait légèrement et les approchait et les éloignait l'un de l'autre en une sorte de danse très lente, d'un rythme égal. Mais ce qui lui fit peut-être l'impression la plus forte dans cette vision macabre, ce fut de voir que chacun de ces squelettes portait un anneau d'or, trop large maintenant que la chair avait disparu, mais que retenaient comme des crochets les phalanges recourbées de chaque doigt. Avec un frisson de dégoût, il les prit, ces anneaux. C'étaient des alliances. Il les examina. À l'intérieur, chacune d'elles portait une date, la même date, 12 août 1892, et deux noms, Alfred, Victorine. « Le mari et la femme, » murmura-t-il. « Est-ce un double suicide, un crime ? Mais comment est-ce possible qu'on n'ait pas encore découvert ces deux squelettes ? Faut-il donc admettre qu'ils soient là depuis la mort du bonhomme Langernaud ? Depuis que l'administration a pris possession du domaine et que personne n'y peut entrer ? Il réfléchit. Personne n'y peut entrer ? Personne ? Si, puisque j'ai vu des traces de pas dans le jardin et qu'aujourd'hui même, une femme s'y est introduite. L'idée de cette visiteuse inconnue l'obsédant de nouveau, il redescendit. Malgré le bruit qu'il avait entendu, il n'était guère à supposer qu'elle eût pénétré dans la grange. Après quelques minutes d'investigation, il allait donc en sortir quand il se produisit, vers la gauche, un fracas de choses qui dégringolait et des cercles de futailles s'abattirent non loin de lui. Cela tombait d'en haut, d'une soupente également bourrée d'objets et d'instruments à laquelle s'appuyait une échelle. Devait-on croire que la visiteuse, surprise par son arrivée et s'étant réfugiée dans cette cachette, eût fait un mouvement qui eût déterminé la chute des cercles de futailles ? Don Luis installa sa lanterne électrique sur un tonneau de façon que la lumière éclaira en plein la soupente. Ne voyant rien de suspect, rien qu'un arsenal de vieux râteaux, de pioches, de faux hors d'usage, il attribua les incidents à quelques bêtes, à quelques chats sauvages et, pour s'en assurer, il s'avança vivement vers l'échelle et monta. Soudain, et au moment même où il parvenait au niveau du plancher, il y eut un nouveau tumulte, une nouvelle dégringolade. Et une silhouette surgit de l'encombrement avec un geste effroyable. Cela fut rapide comme l'éclair. Don Luis aperçut la grande lame d'une faux qui sabrait l'espace à la hauteur de sa tête. Une seconde d'hésitation, un dixième de seconde, et l'arme épouvantable le décapitait. Il eut juste le temps de s'aplatir contre l'échelle. La faux siffla tout près de lui, effleurant son veston. Il se laissa glisser jusqu'au bas. Mais il avait vu. Il avait vu le masque terrible de Gaston Sauvran. Et derrière l'homme à la canne d'ébène, blafarde sous le jet de la lumière électrique, la figure convulsée de Florence Levasseur.